Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 27 février 2025. En République démocratique du Congo, deux explosions lors d'un rassemblement du M23 à Bukavu ont fait au moins 11 morts. Au Gabon, le PDG, ancien parti au pouvoir, se déchire alors que le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 12 avril ont débuté aujourd'hui.
On prendra les dispositions nécessaires pour pouvoir arrêter le désordre, arrêter la cacophonie.
Reportage à suivre dans la partie magazine. En Guinée, l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana a été condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds. En Guinée-Bissau, dispositif de sécurité déployé dans la capitale après l'appel à la mobilisation de l'opposition pour réclamer du moins le départ du président Ambalo. Le premier ministre britannique Starmer rencontre Donald Trump pour faire valoir la position européenne sur le règlement du conflit en Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. En RDC, au moins 11 personnes ont été tuées et une soixantaine blessées dans deux explosions ce jeudi lors d'un meeting du groupe armé M23 à Bukavu. Le président Félix Tshisekedi a condamné un acte terroriste odieux perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais. Nathalie Barge nous en dit plus.
L'hôpital général provincial de Bukavu a indiqué qu'il y a 11 corps à la morgue et qu'une soixantaine de blessés ont été hospitalisés. Des personnes présentes au meeting avaient dit auparavant avoir vu entre 5 et 7 corps après les explosions. Des milliers de personnes étaient rassemblées pour ce meeting du M23 sur la place de l'indépendance de la capitale de la province du Sud Kivu, contrôlée par ce groupe rebelle depuis le 16 février. Une première explosion a provoqué la panique et la fuite des spectateurs. Avant qu'une deuxième ne retentisse, des habitants ont déclaré qu'elles étaient accompagnées de coups de feu. Les gens couraient dans les rues, certains portant des blessés et des corps inanimés. Le leader du groupe rebelle, Corneille Nangaa, a quitté la tribune au moment de la première explosion. Le M23, qui a repris les armes en 2021, s'est emparé de Bukavu deux semaines après la prise de Goma, capitale du Nord Kivu, le 30 janvier. Nangaa, ancien directeur de la commission électorale congolaise de 2015 à 2021, avait certifié Félix Tshisekedi comme vainqueur de l'élection présidentielle de 2018.
En Guinée, une cour spéciale a condamné l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana à une peine de 5 ans de prison et des amendes pour détournement de fonds, enrichissement illicite et corruption. Sa défense a décidé de faire appel de cette condamnation. Nani Talani.
Ibrahima Kassori Fofana a été déclaré coupable par la Cour de répression des infractions économiques et financières, une juridiction anticorruption instituée par les militaires qui ont renversé l'ex-président Alpha Condé. L'ex-chef de gouvernement doit en outre payer une amende de 2 millions de francs guinéens et 18 milliards de francs guinéens en dommages et intérêts. La Cour a également ordonné la confiscation de l'argent dans un compte bancaire au nom de M. Fofana, sans préciser de montant. La défense de M. Fofana a dénoncé la décision de la CRIEF. Elle n'a rien d'un jugement. M. Fofana n'a jamais comparu à une audience publique de la Cour à cause des problèmes de santé. Il n'a jamais bénéficié d'un débat contradictoire. C'est un jugement politique pour éliminer un candidat potentiel, a dit Maître Sidiki Berete. Mon client ne se reproche rien. On va faire appel de cette décision inique, a-t-il poursuivi. Il a indiqué que M. Fofana n'était pas gestionnaire des fonds dont la gestion lui vaut d'être condamné. La Cour lui reproche des malversations sur 15 milliards de francs guinéens destinés à la gestion anti-Covid et à des programmes économiques et sociaux sous M. Condé.
La capitale bissau-guinéenne était calme ce jeudi. L'opposition a appelé à la paralysie du pays à partir d'aujourd'hui, affirmant que le mandat du président Oumaro Sissoko Ambalo devrait prendre fin 5 ans après sa prestation de serment. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Des membres de la garde nationale et de la police d'intervention rapide patrouillaient Bissau à bord de véhicules blindés, assistés de la force de stabilisation de la CEDEAO. Le grand marché de Bandim dans la capitale était ouvert et les taxis circulaient normalement. Dans certains quartiers, des parents ont toutefois décidé de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Le président Oumaru Sissoko Mbalo, qui a annoncé dimanche dernier des élections présidentielles et législatives pour le 30 novembre prochain, avait prêté serment pour un mandat de 5 ans le 27 février 2020. L'opposition amenée par l'ex-premier ministre Domingos Simões Pereira considère que le mandat d'Embalo est arrivé à échéance. Elle a appelé à la paralysie totale du pays à partir de ce jeudi. Les attroupements ont été interdits depuis plusieurs semaines par le ministère de l'Intérieur. Une mission de la CEDEAO arrivée dimanche à Bissau pour nouer le dialogue a rencontré ce jeudi l'ex-premier ministre Geraldo Martins, membre de la coalition d'opposition. Nous avons eu l'occasion d'exprimer nos préoccupations à propos de la crise politique que traverse le pays, a déclaré Martins à l'issue de la rencontre.
Au Sénégal, une rencontre entre le gouvernement, les syndicats et le patronat du pays a débuté ce jeudi dans l'après-midi. Premier test majeur pour les nouvelles autorités pour tenter d'apaiser un climat social tendu sur fond de difficultés économiques. Cette rencontre est présidée par le premier ministre Ousmane Sonko. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé ce jeudi en Somalie, accueilli par le président Hassan Cheikh Mohamud, marquant un nouvel apaisement entre les deux voisins après une forte tension en janvier liée à un accord entre l'Éthiopie et le Somaliland sur un accès à la mer. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'accord d'Ankara négocié par la Turquie en décembre visant à rétablir les relations entre les deux pays. Au moins 70 personnes sont mortes du choléra et plus de 2200 sont contaminées par la maladie dans le sud du Soudan au cours de la semaine écoulée, a déclaré aujourd'hui Save the Children, citant des données du ministère de la Santé. L'épidémie dans l'état du Nil blanc fait suite à une frappe de drone sur la centrale électrique d'Oum Dabakar à 275 km au sud de Khartoum qui a perturbé l'accès à l'eau potable à Kosti, la capitale de l'état. Le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est de la Libye, s'est réuni aujourd'hui, hier du moins, à Paris. À l'Élysée avec le président français Emmanuel Macron. Monsieur Haftar et Monsieur Macron ont discuté des développements du processus politique en Libye et de l'importance d'appuyer les efforts de la mission de l'ONU.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël a annoncé ce jeudi le départ d'une délégation au Caire pour des pourparlers sur la trêve à Gaza après le rapatriement des corps de 4 otages et la libération de plus de 600 Palestiniens. Lors du dernier échange prévu durant la première phase du cessez-le-feu, les négociations à venir par l'intermédiaire des pays médiateurs doivent porter sur la suite du fragile accord de trêve entre Israël et le Hamas qui a fait taire les armes depuis le 19 janvier. Dans la bande de Gaza. Cette deuxième étape à partir du 2 mars prévoit la fin définitive de la guerre et la libération des derniers otages, mais s'annonce très incertaine. Le président américain Donald Trump accueille ce jeudi le premier ministre britannique Keir Starmer pour leur première rencontre en personne à la Maison-Blanche. Cette réunion intervient dans un contexte de changement de politique étrangère des États-Unis, notamment sur l'Ukraine, le Moyen-Orient et le commerce international. Eric Manirakiza.
Le premier ministre britannique est le deuxième dirigeant européen à être reçu par Donald Trump cette semaine, après le président français Emmanuel Macron. Monsieur Starmer tentera de rassurer son homologue américain sur l'engagement de l'Europe à assurer la sécurité de l'Ukraine si des négociations de paix aboutissent. Londres a déjà annoncé une augmentation de son budget de défense. Un haut responsable de l'administration américaine a salué ses engagements, tandis que le président russe Vladimir Poutine a averti les élites occidentales de ne pas entraver un rapprochement entre Moscou et Washington. Starmer mettra en garde contre un accord de paix précipité avec la Russie, conclu sans l'implication de Kiev ni des pays européens et qui pourrait alimenter une nouvelle instabilité en Europe. Londres se dit ouvert à une participation britannique aux garanties de sécurité pour l'Ukraine, mais uniquement dans le cadre d'un engagement collectif européen et sous conditions précises. La nature de la force et de maintien de la paix dépendra fortement du règlement politique qui mettra fin à la guerre, a souligné un haut responsable américain. C'est cet équilibre que les dirigeants vont tenter de définir aujourd'hui. Par ailleurs, la question commerciale sera au cœur des discussions. Donald Trump souhaite renforcer la réciprocité et l'égalité dans les échanges avec le Royaume-Uni.
Le Mexique, premier partenaire commercial des États-Unis, espère toujours un accord avec le président Donald Trump qui menace de taxer à 25% ses exportations à partir de mardi prochain, a déclaré aujourd'hui la présidente de gauche nationaliste Claudia Sheinbaum.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
Le Congo-Brazzaville a signé un protocole d'accord avec la société sénégalaise Sénélec pour lui confier la distribution de l'électricité pendant 10 ans et résoudre les problèmes liés à la vétusté du réseau et au branchement sauvage, en bénéficiant de l'expérience de Sénélec qui a surmonté des défis similaires au Sénégal. La Sénélec sera responsable de la distribution, mais pas de la production ni de l'extension du réseau qui reste insuffisant au Congo. Brazzaville conservera la gestion des factures et des tarifs sociaux. Les employés transférés conserveront leurs droits. La Guinée a lancé un atelier national pour améliorer le marché du travail en mettant l'accent sur la collecte et l'analyse des données. Le ministère du Plan a souligné l'importance de cet atelier pour éviter des crises liées à l'emploi d'étrangers dans le cadre du projet Simondou, en insistant sur la création d'une base de données fiable sur les ressources humaines. Tous les partenaires, y compris l'ONU, ont exprimé leur soutien à cette initiative. Pour terminer, le gouvernement du Botswana a signé un nouvel accord de vente de diamants de 10 ans avec la société minière de Beers après 7 ans de négociations. Le Botswana recevra 30% des ventes pendant les 5 premières années, puis 40% pendant les 5 années suivantes. En échange, De Beers obtient une prolongation de 25 ans de ses licences d'exploitation minière jusqu'en 2054. L'accord peut être prolongé de 5 ans avec une répartition égale de 50-50.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Nous parlons du Nobla cet après-midi et direction le Ghana pour admirer une histoire fascinante, celle d'une jeune pugiliste boxeuse.
Oui, son nom c'est Abigail Kwaterka Quarter. Elle a placé le Ghana sur la carte de la boxe féminine en devenant championne du monde. Pour y arriver, la jeune dame a dû franchir plusieurs obstacles, dont la réticence de ses parents à la voir boxer. Suivez.
Les journées d'Abigail Kwaterka Quarter débutent à 5h du matin. Elle commence à courir dans les rues de son quartier natal, Jamestown, l'un des plus anciens d'Accra. Quartier ouvrier axé sur l'industrie de la pêche, les habitants de Jamestown sont des gars, surtout connus pour leur passion de la boxe. Abigail n'a pas échappé à cette passion pour le noble art. Mais la jeune pugiliste a dû faire face à de nombreux stéréotypes. À part son frère, lui-même boxeur, elle n'a pas reçu d'encouragement de sa famille.
Mes tantes et mes frères et sœurs n'ont pas apprécié que je commence à boxer. Ils venaient ici pour supplier mon entraîneur de ne pas me laisser devenir boxeuse. Mais il leur a dit que j'étais une bonne boxeuse et que je réussirais.
L'année dernière, la jeune boxeuse de 28 ans est devenue la première femme ghanéenne championne du monde de la discipline. Elle a battu la Britannique Sangeeta Berdi à la Bukom Boxing Arena de Jamestown pour le titre de championne du monde des poids super de la WIBF.
Je suis devenue la première boxeuse à voyager en dehors du Ghana sur le billet des Black Bombers, l'équipe nationale de boxe, tout comme je suis devenue la première femme à remporter un titre mondial pour le Ghana.
Abigail n'est peut-être pas la première boxeuse ghanéenne, mais elle est la plus titrée du pays. Son entraîneur, Ebenezer Dikochkile Adjei, l'encadre avec fierté lors de ses séances d'entraînement au Black Panthers Gym de Jamestown.
Son titre est une grande affaire pour elle, mais aussi pour le gymnase, la communauté, la nation ghanéenne, l'Afrique et le monde entier. Il n'est pas facile de gagner un tel titre et aucune femme du Ghana n'a jamais remporté un tel titre.
La famille de Korte soutient désormais ses rêves, surtout depuis sa victoire. Elle est aussi une source d'inspiration pour d'autres femmes, comme Perpetual Akaija.
Au début, ils ne m'ont pas soutenue parce que j'étais la seule femme de la famille à aimer la boxe. Chaque fois que j'essayais d'aller à l'entraînement, ils me décourageaient. Ils me disaient « Va travailler, tu es une femme, tu ne peux pas boxer. »
Il faut de la sueur et du dévouement pour atteindre le sommet dans le monde de la boxe. Mais le parcours de Korte reste une source d'espoir pour d'autres femmes qui souhaitent se lancer dans ce sport.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouédraogo.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. À Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ville prise il y a plus d'une semaine par les rebelles du M23, la lutte contre la propagation du Mpox s'avère difficile. On estime que plus de 100 patients atteints de cette maladie, originaires de l'intérieur de la province du Sud Kivu, ont quitté les centres de traitement alors que les combats faisaient rage entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise et se sont donc volatilisés dans la nature. Une situation qui suscite les inquiétudes du corps médical, davantage avec Zanem Neti Zaidi, notre correspondant dans la région.
La population de Bukavu est préoccupée par la nouvelle selon laquelle des patients atteints de Mpox ont disparu de plusieurs structures sanitaires et se sont réfugiés dans la ville de Bukavu. Pour ces commerçants, la vie de la population est en danger.
Nous avons peur que beaucoup de personnes soient infectées à leur tour. Que les autorités sanitaires fassent de leur mieux pour récupérer toutes ces personnes. Sinon, nous, la population, sommes en danger.
Hein? Chère population.
Alors que les dangers des contaminations planent sur la ville, les cliniques universitaires de Bukavu, où sont soignés les patients atteints de Mpox, connaissent une pénurie de médicaments causée par l'absence du couloir humanitaire. Archip, le médecin-chef, explique que les traitements sont devenus difficiles et pour pallier la pénurie des médicaments, il se tourne vers d'autres hôpitaux de la ville.
Oui, le besoin est quand même, il est là. Il est là parce que la situation a surpris un peu tout le monde. On n'a pas eu le temps de s'y préparer. Et donc, je ne pense pas qu'il y a des hôpitaux qui avaient quand même assez de réserves en termes des intras et en termes de médicaments. Mais il y a quand même une coalition qui s'est faite entre les hôpitaux de la ville et là on est en train de s'épauler.
Les malades qui ont fui les centres de traitement à l'intérieur de la province sont estimés à plus d'une centaine. Cet activiste de la société civile explique cet incident par des fausses nouvelles propagées en temps de guerre et appelle à une bonne sensibilisation.
Vous voyez, il y a eu des messages qui ont circulé dans les réseaux sociaux comme quoi on va aller les traquer même dans les hôpitaux, alors que c'est faux. Les messages que nous pouvons lancer ce jour, c'est de les appeler de retourner dans leur milieu où ils recevaient les soins, parce qu'ils constituent un danger dans la communauté.
La guerre risque d'avoir des conséquences sur les traitements des patients atteints de Mpox et sur la lutte contre la propagation de cette maladie, une situation qui risque d'entraîner des nouveaux décès. Zanem Neti Zaidi, des retours de Bukavu pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Gabon, à un peu plus d'un mois du scrutin présidentiel du 12 avril prochain, un groupe de cadres du Parti démocratique gabonais met en cause une gouvernance illégitime de la présidence confiée à Blaise Louembé. Pour les dissidents du PDG, le comité de transition au pouvoir depuis le 30 août 2023 attise la crise actuelle dans l'ombre, alors que les candidatures pour la présidentielle du 12 avril sont ouvertes à partir de ce jeudi. Les réactions dans ce reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Plus d'un an après la chute du régime Bongo, le Parti démocratique gabonais peine à surmonter ses divisions internes. Mais le nouveau directeur du parti de masse a promis de mettre de l'ordre dans la maison. Un engagement de Blaise Louembé et ses camarades qui intervient dans un contexte de démission de plusieurs cadres du parti.
On prendra les dispositions nécessaires pour pouvoir arrêter le désordre, arrêter la cacophonie.
Au bord de l'implosion, le PDG doit pourtant se relever en cette veille de la présidentielle. Une mission quasi impossible, en pleine bataille pour le respect de ses propres textes. Ali Akbar Onanga Yobegué est le porte-voix des dissidents.
Les agissements de certains de nos propres camarades qui, en violation flagrante de nos textes fondamentaux, menacent aujourd'hui l'existence même de notre parti. Cette menace interne est plus dangereuse encore que tous les défis externes auxquels nous avons dû faire face par le passé.
L'éviction de l'ex-dirigeant gabonais Ali Bongo Ondimba de la présidence du PDG en mars dernier et la tenue du 13e congrès extraordinaire du parti début janvier exacerbe la colère de maître Francis Nkeya, un des rédacteurs des statuts du parti.
On a ignoré toute une partie de la vie du parti et on est venu directement en 2023, alors même qu'il y avait des textes. Ceux qui se disent appartenir, par exemple, au comité permanent, au bureau politique et autres, ils ont été nommés dans quelles conditions? Ils ont été nommés à la suite d'un congrès. Si aujourd'hui on ne reconnaît pas le congrès de 2022, ça veut dire qu'on ne reconnaîtra plus toutes ces personnes qui sont là.
Vu de l'extérieur, la guerre des chefs au sein du PDG est à inscrire dans la marche normale de tout grand parti. Martial Tsonga, journaliste et rédacteur en chef du site Gabon News.
Le Parti démocratique gabonais, c'est le parti le mieux implanté au sein du territoire national. Ça voudrait dire qu'en leur sein, ils vont certainement se régénérer.
Pour Sentiment Ondo, analyste politique, le PDG fait l'expérience d'une existence hors du pouvoir.
Étant donné que le PDG n'est plus au pouvoir, ça ne devrait pas surprendre en tant qu'observateur. Maintenant, l'autre analyse qui pourrait être faite, c'est qu'il y a une véritable dynamique démocratique qui s'exprime au sein de ce parti, enfin.
Le dossier PDG est désormais pendant devant les juridictions compétentes du pays, une procédure instruite par la frange dissidente du parti conduite par Ali Akbar Onanga Yobegué. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Kenya, de plus en plus de personnes utilisent les médias sociaux pour s'informer. Le changement numérique modifie le paysage médiatique avec des startups comme Tuko qui émerge en tant que leader de l'information rapide pour le jeune public. Victoria Amunga a rencontré l'équipe pour savoir comment elle concilie le journalisme responsable avec les besoins de l'ère numérique. Le récit est de Lionel Gaïma.
Dans une salle de rédaction animée de la capitale du Kenya, Nairobi, les journalistes du groupe de médias numériques Tuko mettent leurs compétences à profit. Tuko, qui signifie « nous sommes » en swahili, a été créé en 2015 et compte aujourd'hui plus de 30 millions d'utilisateurs de la plateforme chaque mois. Walter Masolo Mambonga dirige le département éditorial de Tuko, chargé de l'actualité politique. 57 jeunes journalistes y travaillent. Selon ce jeune homme de 29 ans, la rapidité avec laquelle l'équipe produit du contenu aide le média à prospérer et à se démarquer des médias traditionnels. Walter Masolo Mambonga, journaliste de Tuko.
Il est très rapide en termes d'approbation des articles et de publications. Il n'y a pas beaucoup de bureaucratie comme dans les grands médias publics où il y a beaucoup de contrôle.
Tuko s'inscrit dans le cadre d'un changement numérique plus large. Un rapport de l'Institut Reuters sur l'actualité numérique révèle qu'au Kenya, 89% des informations sont désormais consommées en ligne. Ce sont les médias sociaux qui ont connu la plus forte progression, puisque 77% des personnes s'informent désormais via ces plateformes. Le personnel de Tuko affirme que le public fait confiance à son média. Ruby Orimba est responsable de relations publiques à Tuko.
Nous interagissons toujours sur les médias sociaux et nous avons une équipe solide qui surveille en permanence ce qui se passe. Tout en écoutant les Kenyans et en leur offrant cette plateforme, nous procédons également à de nombreuses vérifications afin que l'article ne soit pas simplement un article à sensation, mais un article fondé sur des faits.
Les faits sont importants dans le cadre de l'évolution vers les informations numériques rapides. Selon le Centre international pour les journalistes, les médias sociaux ont permis à la désinformation de se propager plus rapidement et plus largement. Mais les autorités kényanes estiment qu'il est difficile de réglementer les plateformes numériques. Le Conseil de médias du Kenya, un organisme gouvernemental, affirme qu'il peut être difficile de savoir qui gère un site. Dina Ondari est responsable de la recherche et du suivi du Conseil des médias du Kenya.
Il y a des plateformes qui se sont multipliées. Pour certaines d'entre elles, leur propriété ne peut même pas être établie en raison de la nature des médias numériques. Par conséquent, il devient difficile pour les régulateurs d'identifier qui se cache derrière cette plateforme.
À mesure que les médias numériques se développent, les jeunes journalistes voient se multiplier les opportunités d'emploi dans un secteur très concurrentiel, affirme le responsable du groupe de médias numériques d'Afrique, Africa Digital Media Group. Mukuwi Mbindo est responsable des partenariats au sein de l'Afrique Digital Media Group.
Quelqu'un qui aurait eu besoin de toute une équipe de journalistes pour pouvoir sortir et raconter une histoire peut maintenant le faire avec son téléphone. Même pour la rédaction d'un article, il existe de nouveaux outils et logiciels qui permettent de rédiger des articles. Il y a même une prolifération de l'IA.
Les experts des médias estiment que la combinaison des normes des médias traditionnels et des nouveaux outils numériques contribuera à la pérennité des médias kényans.
Des responsables ukrainiens et de l'administration Trump affirment avoir conclu un accord cadre qui permettrait aux États-Unis de tirer profit des minéraux et autres ressources naturelles de l'Ukraine, notamment du titane, du lithium, du pétrole, du gaz naturel et des terres rares. Nathalie Barge.
L'Ukraine possède de vastes réserves de terres rares et d'ilménite, un composé à partir duquel est extrait le titane, dans l'est du pays touché par la guerre avec la Russie. Les États-Unis importent une grande quantité de titane utilisé dans l'aérospatiale, la défense et autres industries. Andrij Orpaniev, ingénieur en chef de la mine Velta en Ukraine.
Pour transporter les marchandises jusque vers les ports, il y a certaines difficultés, notamment la hausse du prix de la logistique.
Les politiques ukrainiennes onéreuses ont jusqu'à présent dissuadé les entreprises locales et doivent s'adapter aux investisseurs étrangers, alors que ces zones riches en minerais sont touchées par la guerre avec la Russie.
Cela est dû en partie aux dégâts causés au port par les bombardements. Dans cette zone également, il y a des destructions et de retards et certains problèmes sur les navires.
Les États-Unis sont également un grand consommateur de terres rares comme le lithium et le gallium, deux métaux dont l'Ukraine possède des réserves. Kiev espère que la signature d'un accord garantira la poursuite du soutien militaire américain. Ksenia Orinchak, directrice de l'Association nationale des industries extractives d'Ukraine.
Nous comprenons que les Américains ont plus d'opportunités, plus de ressources et sont plus influents. Ils pourront protéger les territoires avec leurs investissements et construire des usines ou des centrales dans notre pays.
L'Ukraine possède des gisements de 20 des 50 minéraux que l'US Geological Survey considère comme essentiels au développement économique et à la défense des États-Unis, dont le lithium, l'uranium, les terres rares et le titane.
Avant de faire ces investissements, je conseillerais aux investisseurs américains de discuter avec le gouvernement ukrainien pour abaisser le seuil d'entrée pour l'exploration géologique, car aujourd'hui, nous avons des enchères électroniques, même dans les zones où il y a des ressources projetées.
Les réserves de terres rares de l'Ukraine se situent principalement dans des régions contrôlées par la Russie, notamment Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson et la Crimée, annexées par la Russie en 2014. Certains gisements de gaz naturel offshore de la mer Noire sont également inaccessibles à cause des combats.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde. Georges Léonard Sagnon, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.